La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ségalène disait de lui-même qu'il était né pour vagabonder, voir et sentir. Le voyage, il l'a en effet beaucoup pratiqué, vers la Polynésie puis vers la Chine, cherchant à chaque fois un envers de l'Europe à travers d'autres civilisations et bien sûr aussi un envers de lui-même, tant ses voyages furent également des trajets introspectifs, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Nous le verrons d'abord demain avec le parcours de son œuvre, l'exploration de certains grands thèmes ségaléniens comme l'exotisme. Nous serons pour ce faire avec le professeur, poète et romancier Christian Doumé. Mercredi, nous nous intéresserons plus particulièrement à la Chine de Ségalène à travers deux de ses livres, Fils du ciel et René Leys. C'est Jean-François Louette et Pierre Glaude qui nous en parleront. Et puis jeudi, nous serons dans la Polynésie de Ségalène avec Colette Camelin qui nous parlera également du rapport du poète avec le peintre Gauguin, lequel a également vécu dans ces îles. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Victor Ségalène, nous sommes en compagnie de Marie Dolé, autrice de la biographie intitulée « Victor Ségalène, le voyageur incertain » publiée en 2008 aux éditions Aden. On lui doit également, avec Christian Doumé, l'édition des Immémoriaux, le premier livre de Ségalène, ainsi que l'édition de René Leys au livre de poche, sans compter toujours avec Christian Doumé, la direction du Cahier de Lerne Ségalène, qui reparaît cette année dans une version remodelée. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs qui commence aujourd'hui par la fin.
Crois-moi sur parole, je suis lâchement trahi par mon corps. Voici longtemps qu'il m'inquiète, mais il m'obéissait pourtant, et je l'ai traîné dans pas mal de randonnées qui, en apparence, n'étaient pas faites pour lui. Depuis 5 ou 6 ans, c'était au prix d'une énergie spontanée, mais consciente d'une usure sans réparation. Mon entrain pouvait donner le change. Il n'allait pas sans une angoisse secrète. Je sais maintenant que j'avais raison. M'arrêter plus tôt eût été tomber plus tôt. Je n'ai aucune maladie connue, reçue, décelable. Et cependant, tout se passe comme si j'étais gravement atteint. Je ne me pèse plus, je ne m'occupe plus de remèdes. Je constate simplement que la vie s'éloigne de moi.
Un extrait lu par Cédric Gourmelon d'une lettre de Ségalène à son ami Jean Lartigue qui date du 21 avril 1919. C'était un mois jour pour jour avant sa mort. Bonjour Béatrice Dolé.
Marie.
Bonjour Marie Dolé, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler Béatrice. Vous aussi, vous commencez votre biographie par la fin en racontant la mort de Ségalène. Vous dites d'ailleurs que c'est une mort insolite. Elle est survenue, je vous l'ai dit, dans la forêt de Huelguat, qui se trouve dans le Finistère. Et c'était donc le 21 mai 1919. Il avait 41 ans. Il y a beaucoup à dire sur cette mort, Marie
Dolé. Oui, c'est une mort aussi insolite que son œuvre. La belle formule appartient à Pierre-Jean Jouve. Et effectivement, c'est une scène qui suscite, qui est mystérieuse, intrigante, où on a l'impression qu'il y a un secret. Et évidemment, elle suscite l'interprétation et la curiosité.
Ah bah vous-même, vous avez interprété, vous avez tranché et vous avez un avis sur ce qui s'est passé pendant ces journées. Parce qu'en fait, il faut raconter comment Ségalène est parti se promener dans la forêt et n'en est jamais revenu.
Oui, il est parti le mercredi et on l'a retrouvé le vendredi. On a commencé à le chercher le jeudi. Et effectivement, moi, j'ai mis dans ma biographie l'hypothèse qui est la mienne, qui est celle du suicide. Mais ce n'est pas la version officielle. La version officielle est celle de l'accident. Hein, il aurait été blessé par une racine taillée en biseau. Et cette blessure aurait provoqué une hémorragie mortelle. Mmh. Alors c'est une thèse qui a été... Il n'y a pas eu d'autopsie. Hein, la famille a refusé l'autopsie, ce dont on peut se féliciter. La version officielle a été celle de l'accident. Ce que je comprends très bien, parce que à l'époque le suicide était vraiment considéré comme un acte répréhensible. Et je comprends également que cette hypothèse de l'accident était celle de qui était ensuite préservée. J'en ai discuté avec la fille de Victor Ségalen, Annie Julie Ségalen, qui a tant fait pour son œuvre, et elle refusait totalement l'hypothèse du suicide. Ce que je comprends également, parce que bon, j'imagine qu'un suicide peut être perçu comme un abandon d'une certaine façon. Donc je respecte tout à fait cette attitude, mais je pense qu'il faut aussi considérer l'autre hypothèse, qui est celle du suicide. Et quand nous avons publié le cahier de Lerne, il y a eu un article de Dominique Mabin sur la mort de Victor Ségalen, qui à mon avis donne une démonstration tout à fait convaincante.
En tout cas, ce qui est certain, quelles que soient les raisons réelles de cette mort, c'est que cette mort, il l'a vue venir, parce que c'est une mort par hémorragie. Il était dans un endroit sacré, cette forêt, et on l'a retrouvé, c'est ce que dit en tout cas sa femme, les yeux baignés de pluie, et dans une posture de très grande sérénité.
Oui, il est certain qu'il a vu venir cette mort, et il avait emporté avec lui ce jour-là son exemplaire des œuvres complètes de Shakespeare, qu'il ne l'a jamais quitté, quasiment dans tous ses voyages. Et il a eu le temps de marquer une page avec des mousses et de glisser dans cet exemplaire la photo de sa femme.
Et d'ailleurs, à une page qu'ils avaient lue ensemble quelques jours plus tôt.
Voilà. Ouais.
Alors, deviens ce que tu es. Dans le cahier de Lerne, Ségalen, vous expliquez qu'il aurait pu faire sienne la devise de Nietzsche. Deviens ce que tu es. Pour quelle raison, Marie Dolé?
Mais parce que c'est sa conviction. Que, en fait, et sa vie le montre, de chercher à se conformer à ce que l'on est profondément, mais qu'on ne peut découvrir finalement qu'en devenant, c'est-à-dire dans le mouvement.
Donc toute la vie de Ségalen est une quête pour essayer de s'approcher de qui il était réellement.
Probablement, et il est probable que il fait partie de ces écrivains qui ont besoin d'un détour. Par l'ailleurs, par le voyage, par des pays très lointains, pour finalement s'approprier leur propre langue ou leur propre personnalité.
Mais est-ce qu'il n'a pas eu besoin aussi d'un détour par l'artifice? Parce que pour devenir ce qu'il est, il a fait de sa vie un roman ou un spectacle. Il était un homme pour qui l'esthétisme, c'est-à-dire l'artificiel en grande partie, était très important.
L'illusion. Hein, c'est ce dont il parle beaucoup avec Jules de Gautier et qui est influencé par la lecture de Nietzsche et de Schopenhauer.
Donc Jules de Gautier, professeur de philosophie, qui était célèbre à l'époque pour avoir théorisé un petit peu le bovarisme, notion de bovarisme.
C'est un des introducteurs de Nietzsche en France également. Et alors il a un peu disparu de notre paysage philosophique, mais il a eu, notamment pour Ségalen, et Ségalen a retenu de chez Jules de Gautier effectivement cette théorie où on essaye toujours de devenir autre que ce qu'on l'on est. Et effectivement, c'est autre que ce que l'on est, et peut-être celui, finalement, que l'on est, d'où la formule qu'il utilise, qu'on peut utiliser à son propos.
C'est toute la question du réel et de l'imaginaire qui traverse toute l'œuvre de Ségalen.
Oui. Ça, c'est. Alors, ça, c'est effectivement. On pourrait dire que c'est presque une constante. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas d'un côté le réel et de l'autre l'imaginaire. C'est cela qui, je crois, est intéressant chez lui. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend l'exemple des voyages, c'est vraiment le réel, hein, ce qu'il appelle le bon gros réel, avec leur dose d'imprévus, de difficultés, de corps à corps avec le pays. Hein, tous les pays, il les a parcourus, mais vraiment physiquement parcourus. Mmh. Ce qui est quand même, à son époque, tout à fait étonnant. Hein. C'est un personnage qui est tellement en avance.
Donc, je naquis. Et chose beaucoup plus extraordinaire, presque miraculeuse, paraît-il, je vécus ou survécus. J'étais d'un poids médical insuffisant, et la science, vexée par ma persistance à vouloir vivre quand même, me déclara bon pour certaines maladies pulmonaires qui n'ont jamais voulu de moi, mais qui m'imposèrent longtemps la plus honteuse humiliation qu'un homme de 6 à 16 ans puisse éprouver. J'avais défense de trop courir avec les autres, défense d'avoir chaud jusqu'à la sueur, encore plus d'avoir froid jusqu'à la glace. J'appris donc, dès le sevrage, de mes parents, que je n'étais pas comme les autres. J'en fus convaincu depuis lors. Ce fut le premier et étrange service que me rendit ma mère. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne seras pas comme les autres. Fut le mot magique qui défendait, interdisait, promettait aussi des merveilles.
La compagnie des auteurs avec cet extrait du texte Essai sur moi-même de Ségalène. Ségalène qui naît donc le 14 janvier 1878 sous le signe du Capricorne. Et si on vient de l'entendre, un enfant très chétif. On craint dès le départ pour sa vie, on le baptise le jour même en l'église de Saint-Martin à Brest. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette mère qui a une importance un peu terrible sur la destinée, au moins sur la jeunesse, de Victor Ségalène, Marie Dolé?
Oui, alors Ambroisine, c'est effectivement, d'après ce qu'on sait d'elle, une femme de caractère. Une de ces femmes qui dirige dans leur maison. Et d'abord, Ségalène est née après, je crois, 8 ans de mariage ou 5 ans de mariage. C'est un enfant très, très attendu. Et en même temps, elle le protège, comme l'extrait que vous avez fait lire le laisse penser, bien sûr. Et en même temps, elle exerce sur lui une surveillance absolument terrible et qui à mon avis explique en grande partie qu'il ait eu envie de partir si loin.
Oui, parce qu'elle va même l'accompagner alors avec sa sœur, la sœur de Victor Ségalène, durant une partie de ses études.
Mais oui. Et donc effectivement,
qui va faire à Rennes et elle vient avec
lui. Oui, elle vient effectivement et il commence à avoir un petit peu à Bordeaux. Elle poste l'abbé Lelièvre en sentinelle chargée
voilà,
de le surveiller.
Ensuite après Rennes, il va étudier la médecine à Bordeaux.
À Bordeaux et elle dépêche l'abbé Lelièvre à qui il doit se confesser, et elle oblige son fils à lui rendre compte mais de la moindre dépense parce que évidemment les dépenses c'est une façon de surveiller sa vie amoureuse. Il doit justifier les quelques centimes qui manquent à chaque fois.
Donc une mère assez terrifiante, comme le sont les quelques mères, il n'y en a pas beaucoup, qu'on peut trouver dans l'œuvre de Ségalène.
Oui, notamment l'impératrice Seuxi qui va effectivement probablement faire assassiner son propre neveu. Oui, les mères sont terrifiantes c'est assez terrible parce que très longtemps, Ségalène répond avec beaucoup d'humour à sa mère.
Gentillesse hein, même.
Oui, voilà, avec beaucoup de gentillesse et d'humour. Et au fur et il s'est marié aussi contre leur avis avec Yvonne. Et sa mère aurait, je pense, rêvé d'en faire un personnage personnage un peu, vous savez, qui ressemblerait à Homais de Madame Bovary.
Ah ben on y revient justement,
oui,
au bovarisme.
Oui, oui, voilà, un pharmacien, mais pas au sens où l'entendait Ségalène, quelqu'un qui cherche pas du tout à devenir autre que ce qu'il est. Et bon, évidemment, il part pour la Chine, il ne se conforme absolument pas à ce qu'elle souhaite.
Il n'est pas pharmacien, mais il sera médecin.
Il sera médecin, oui, mais elle aurait aimé qu'il s'installe près de chez elle, qu'il reste un peu sous sa coupe. Et bon, et si, ce qui est enfin, les lettres qu'il expédie deviennent de plus en plus amères, hein, au fil des années. Et ce que j'ai toujours trouvé extrêmement drôle quand même, c'est que quand il publie Stèle,
son grand livre de poésie
en 1912, la première édition. Il envoie ce livre dédicacé à ses amis, à quelques personnalités du monde littéraire, et il en envoie un exemplaire à ses parents, dédicacé en chinois, mm-hmm, entièrement. Ce qui montre un peu, évidemment, l'incompréhension totale.
Alors il aurait pu l'écrire en français pour son père, voire même en breton,
oui,
parce que son père connaissait le breton.
Oui.
Il était instituteur, je crois, à Brest.
Il était, professeur. Je crois, secrétaire de marine, quelque chose, pas vraiment instituteur.
Et alors, il lui a appris le breton, si ce n'est la langue elle-même, au moins la sonorité de cette langue-là.
Ah oui, puis Ségalène avait sans aucun doute entendu au collège de Lesnevin, avait entendu parler breton, hein, même si c'était interdit à l'époque. Mais il avait la langue bretonne dans l'oreille, ça c'est certain.
Et ça, est-ce qu'on le retrouve dans certains des livres de Ségalène, dont les tournures, parfois, je pense aux immémoriaux, ne sonnent pas tout à fait grammaticalement parfaites en français? Est-ce que ce ne serait pas, justement, le souvenir de formulations bretonnes?
Alors là, c'est possible, mais je pense que dans les immémoriaux, il crée une langue tout à fait particulière qui est plutôt censée recréer l'ancienne langue maori, la langue sacrée, qui a en grande partie disparu et qui a été détruite, oubliée.
En tout cas, il avait l'oreille exercée à saisir d'autres façons de dire les choses. On a raconté la mort dont il est peut-être en fait un suicide de Ségalène. Il faut dire que quand même, c'est quelqu'un qui a été mélancolique toute sa vie, et cette mélancolie, elle commence dès l'adolescence, Marie Dolé.
Oui, il a connu toute sa vie des crises de dépression très plus ou moins graves. La première quand il a raté la première partie de son baccalauréat, qu'il a été au collège de Lesnevin. Ça a été terrible pour lui.
Après, il a été reçu mention très bien,
ah,
donc
oui,
ça allait mieux.
Oui, mais ça, c'est tout le temps comme ça avec lui. C'est-à-dire qu'il rate, et puis l'année suivante, il est reçu dans le premier. Enfin, c'est une constante chez lui. Il a connu aussi une crise de dépression à Bordeaux, quand il a été obligé de rompre avec une jeune fille qu'il avait courtisée.
Et il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui va devenir hyperactif toute sa vie,
oui,
peut-être aussi pour lutter contre cette mélancolie, cette dépression qui revient sans cesse.
Alors ça, c'est très net. C'est-à-dire que quand Ségalène voyage, jamais, au grand jamais, il n'est malade. C'est-à-dire que dans les grandes expéditions, la première dure 10 mois à travers la Chine, la deuxième dure également plusieurs mois, mais cette grande expédition de 10 mois, où il y a un palanquin pour porter les malades, écoutez, tout le monde va passer dans le palanquin, sauf un, qui est Victor Ségalène.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Marie Dolé, Ségalène fait donc médecine, il passe le concours d'entrée à l'école de santé navale à Bordeaux, mais est-ce que vraiment la médecine sera pour lui d'un intérêt profond? Est-ce qu'il n'est pas déjà, à cette époque-là, surtout intéressé par la musique et par la littérature?
Oh oui, ça c'est incontestable. Ce qui l'intéresse, c'est la musique, la littérature. Il peint hein, également. Il est doué pour dans beaucoup de domaines. Alors, il a besoin de gagner sa vie. Il va se marier. Il va avoir 3 enfants. Donc, il va exercer toute sa vie sa profession de médecin.
Avec une forme de répugnance ?
Ah non, pas du tout. Enfin, je pense que, alors là, c'est sans contestation possible, c'est quelqu'un qui a été d'un dévouement absolument exemplaire à ses malades et qui a risqué sa vie, hein, notamment quand il est parti pour soigner l'épidémie de peste en Mandchourie. Son prédécesseur était mort. Mmh. Donc, et il a soigné de même alors qu'il était, vous l'avez, on a lu l'extrait... tout à l'heure, il était déjà très affaibli en 1918 et il a soigné à l'hôpital de Brest l'épidémie de grippe espagnole où il risquait, lui, là également, de contracter la maladie.
Mais ça lui prend tout de même beaucoup de temps et pendant toute sa vie, il va essayer quand même de se libérer le plus possible pour pouvoir accomplir ce qu'il a à accomplir, c'est-à-dire son œuvre et aussi pour voyager. Les voyages, ça commence d'ailleurs en Bretagne oui. Par des randonnées à bicyclette.
Oui, sa bicyclette qu'il appelait Sophie. C'est une bicyclette que son grand-père lui avait offert quand il avait 12-13 ans. Et c'est un très beau cadeau, hein. C'est à peu près 3 mois le salaire d'un instituteur. Et il part effectivement pour faire une randonnée en Bretagne. Il écrira un petit texte qui sera publié beaucoup plus tard à Drozanarvor. Et dans cette randonnée, il va pour la première fois découvrir le site de Huelgoat où il va mourir.
Est-ce qu'il va en vélo à Solesmes, dans la Sarthe, cette abbaye, où il a rencontré le père bénédictin, Dom Thomasson de Gournay? Je crois que c'est justement son chaperon bordelais que sa mère lui a mis sur le dos, qui lui permet de rencontrer cet ecclésiastique. Ça va être assez important quand même pour lui, non seulement dans ce voyage-là, et puis aussi après la découverte d'une autre abbaye à Ligugé, où là, c'est par Huysmans
hein,
qu'il va visiter.
Et ce qui est frappant quand on regarde tous les dossiers des œuvres de Ségalène, par exemple les immémoriaux, il est absolument fasciné, très intéressé par tout ce qui touche à la religion.
Et pourtant, il n'est pas du tout religieux, il est même plutôt athée, non ?
Oui, enfin, il a une position, il ne prend jamais position très nettement, mais il s'est marié religieusement, ses enfants sont baptisés, il va expliquer à Yvon qu'il faut qu'il fasse sa communion solennelle, parce qu'il faut qu'il connaisse la religion de son pays.
Oui, mais ça ne veut pas dire la pratiquer.
Non, ça ne veut pas dire qu'il a un sentiment religieux au sens où on l'entend habituellement chez quelqu'un de pratiquant. Mais c'est quelqu'un qui est toujours très, très fasciné par tout ce qui est quand même du domaine de la spiritualité.
Et la spiritualité, l'ésotérisme, qu'on va d'ailleurs retrouver dans Stèle, il va peut-être aussi l'expérimenter à travers certaines substances. Et c'est quand il est étudiant à Bordeaux qu'il découvre l'opium. Marie Dolé, qu'est-ce qu'il en fait de l'opium? Ça lui sert à quoi?
Il fait ce que tout le monde en fait, c'est-à-dire il le fume.
Oui, mais il y a diverses manières, j'imagine.
il s'y adonne. Et vous savez qu'à l'époque, beaucoup, notamment dans la marine, subissait une addiction à l'opium considérable.
Donc c'est pas pour son œuvre, il s'agit pas de créer grâce à l'opium.
Non, là je crois que non. Là, alors même si, bon, parfois, par exemple, à la fin de sa vie, il écrit une page tout à fait étonnante sur les immémoriaux bretons. Il aurait pu écrire les immémoriaux bretons. Bon, on sait que cette page a été écrite après une soirée de fumerie. Mmh. Bon, mais moi je pense que c'est pas du tout un écrivain des paradis artificiels, hein. c'est pas du tout un écrivain qui cherche dans l'opium des sensations différentes. Et c'est simplement une addiction certaine qui a probablement contribué à l'état de santé lamentable dans lequel il se trouve à 40 ans, parce que il a décidé tout seul d'arrêter l'opium. Mmh.
À Bordeaux aussi, il va écrire une thèse de médecine, mais bon, c'est là où on sent que quand même il est très intéressé par la littérature, puisque le thème de cette thèse, c'est l'observation médicale chez les écrivains naturalistes. Oui. Donc plutôt une thèse de littérature en réalité.
Oui. Il tire la médecine du côté de la littérature, hein. ça ne fait pas de doute.
Et alors il fait partie de ces écrivains qui, vous le disiez, ont besoin de mettre à distance leur propre langue afin de pouvoir l'habiter. Et c'est sûrement pour ça qu'il est très heureux de s'embarquer le 11 octobre 1902 au port du Havre pour Tahiti. Oui. Quelles sont les raisons de ce départ?
Ah bah écoutez, il a demandé un poste à la marine, on lui a proposé Tahiti. Bon, ensuite, parce que il avait déjà entendu parler de la Chine, mais il ne pourra aller en Chine qu'en 1909. Et Tahiti, bah écoutez, c'est vraiment l'occasion de larguer les amarres.
Et de quitter la famille aussi.
De quitter la famille, d'être débarrassé de la tutelle insupportable hein, de sa mère. Et Tahiti est une véritable révélation sensuelle hein, pour lui et sensorielle.
Comme l'avait déjà été l'opium, parce que c'est aussi oui. À cela qu'il utilise ce produit. Avant d'arriver à Tahiti, il fait escale à New York,
oui.
Puis à San Francisco.
À San Francisco.
Alors New York, il va pas tellement aimer. Je trouve que c'est une ville déjà trop verticale.
Oui. Mais San Francisco, il va visiter la ville chinoise oui. À San Francisco. Et c'est finalement son premier contact avec la Chine sur le chemin de la Polynésie.
Et il visite la ville chinoise alors qu'il est convalescent parce qu'il oui. Va être atteint d'une maladie assez grave. Il va même croire
qu'il va mourir.
Donc oui. Il y a toujours ce rapport très présent de la mort chez Ségalène, alors même que c'est quelqu'un qu'on pourrait dire adepte du vitalisme. Il y a toujours un petit peu ces deux côtés-là.
Oui, mais c'est-à-dire d'avoir frôlé la mort, c'est une typhoïde, hein, si je me souviens bien, mm-hmm. Ça lui donne l'occasion d'une véritable renaissance.
Alors la renaissance, elle lui permet d'arriver à Tahiti le 23 janvier 1903.
Ce matin, 23 janvier 1903, avec le jour, s'est dessinée la silhouette triomphale de Tahiti. Pendant que derrière nous, les gros cumuli gris se bousculent dans le ciel en arrière-garde attardée de l'orage d'hier, c'est, en face, dans un ciel pâle, la découpe brutale et douce de l'île désirée. Elle se lit, inscrite en violet sombre, sur la page délavée du ciel. De gauche à droite, un éperon longuement effilé, puis une crête déchiquetée qui le prolonge, puis deux pics, dont le géant de l'île, puis un autre sommet, et encore une pente lente vers la ligne d'horizon. Deux plans, les sommets durement accusés et comme incrustés d'un trait de vitrail, et les versants, très doux et vert veloutés, perdus en bas dans le pailleté frémissant de la mer. Les brisants sur le récif de corail délivrent une blancheur qui tressaute et s'irise. L'air s'emplit de bouffées tièdes et de parfums caressants. Et sur la gauche, là-bas, le soleil grandit derrière la pointe Vénus. Nous cheminons doucement, le chenal se précise. Coupe naturelle dans l'anneau de corail qui enserre presque complètement toutes les îles de la même origine.
Extrait du Journal des îles, lu ici par Michel Bouquet. Alors Marie Dolé vous racontait qu'il va d'abord faire une tournée à bord de la Durance pour porter secours aux sinistrés du cyclone qui s'est abattu sur l'archipel des Tuamotu du 11 au 17 janvier 1903. Il va même écrire un rapport sur le désastre intitulé « Vers les sinistrés ». Et puis dès février de cette année-là, il va commencer à réfléchir à son grand roman, Les Immémoriaux, qui va mettre en chantier finalement l'année d'après, c'est ça?
Oui, il commence à l'écrire à Tahiti.
Alors, un mot quand même sur ce livre qui n'a pas vraiment d'équivalent, ni à l'époque, ni peut-être encore aujourd'hui. On ne sait pas très bien si c'est un ouvrage ethnographique, si c'est un roman, si c'est de la poésie.
Oui, c'est un ouvrage qui a été publié, par Jean Mallory dans la collection Terre humaine. Donc, il fait partie des ouvrages ethnographiques d'une certaine façon. Et ce qui en a un petit peu peut-être dévié la lecture. Et puis, ça appartient incontestablement à la littérature. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler de roman? Peut-être pas.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous?
Un récit parce que Ségalène est très très critique à l'égard du roman et de l'auteur, qui est pour lui un insupportable personnage.
Oui. Alors il rentre en France, il se marie, hein, on l'a déjà dit, avec une femme qui s'appelle Yvonne. Dans votre biographie, vous insistez quand même beaucoup sur le fait que Yvonne a bien du mérite, parce que Ségalène, avec elle, est plutôt distant, il ne s'occupe pas tellement de la vie de famille.
Oui, je trouve qu'elle a effectivement, elle a eu beaucoup de patience et de mérite, sans doute une admiration sans borne, hein, également pour son mari. Alors c'est peut-être aussi un trait d'époque, peut-être que effectivement les femmes accepter plus facilement peut-être ce genre de situation, mais je crois que il tient beaucoup à elle, ça ne fait aucun doute, mais dans l'absence. C'est-à-dire que c'est une relation qui curieusement s'établit dans l'absence, et
un petit peu comme la relation, alors sur un tout autre domaine, qui est le domaine musical, qui est son rapport à Claude Debussy. Ils vont correspondre, ils vont vouloir travailler ensemble pour un opéra, puis finalement, ça ne se fera pas.
Non, alors ça, c'est vraiment dommage, hein. On ne peut que le regretter. Mais honnêtement, je pense que les livrets de Ségalène étaient probablement trop littéraires. Et qu'il n'était pas au service de la musique, et que Debussy a bien senti la difficulté.
Alors en 1909, il est reçu à un examen d'élève interprète de la marine, il obtient un détachement en Chine, et c'est de la Chine dont nous allons parler juste après la chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Philippe Roger.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Philippe Roger, directeur de la revue Critique, avec une chronique exceptionnellement enregistrée, car vous vous trouvez, Philippe, à l'heure où nous parlons, au colloque de Cerisy, et pour cause, c'est un colloque consacré à la revue Critique elle-même, pas très loin d'ailleurs du terroir d'origine de l'historien Alain Corbin, qui est la vedette du numéro spécial conçu par Pierre Birmaume et par vous-même et qui paraît cette semaine.
Oui, pas très loin en effet, pas si près non plus, parce que Cerisy-la-Salle est dans la Manche. Alain Corbin a grandi dans l'Orne, nuance, hein, et cette nuance c'est ce qui fait tout le charme de la France des pays. C'est aussi, je crois, un des grands charmes de l'histoire tel que l'écrit Alain Corbin. C'est un historien qui s'est toujours tenu à l'écart des emballements idéologiques, des querelles doctrinales. Il a toujours gardé ses distances respectueuses, comme on dit, mais j'ai envie de dire irrespectueuses, avec le culte des grands hommes, avec la religion des événements réputés fondateurs, avec les pèlerinages aux sources et aux lieux de mémoire. Lucien Febvre et d'autres maîtres des annales ont compté dans sa formation, mais Corbin aime avoir les coudées franches. L'histoire quantitative, qui prétend lire la réalité dans les courbes et graphes de la statistique, n'est pas son fort. Et même la longue durée, il n'en a jamais fait un dogme. Son premier opus sur le Limousin couvre 35 années exactement, 1845-1880. Son village des cannibales est centré sur une seule journée sanglante de 1870, même si derrière le cristal de cet événement, comme disait Walter Benjamin, on devine une toute autre durée. Quant à ses livres les plus récents, sur l'herbe, sur l'arbre, il renoue avec un temps qui est celui de la terre elle-même. Bref, Corbin est un franc-tireur, il invente à lui tout seul, loin des sentiers battus, une histoire qui surprend, qui dérange, qui choque et qui séduit.
Et traditionnellement, on parle de lui comme un historien des émotions.
Oui, et c'est vrai, cette histoire, il en est largement l'inventeur. Et en tout cas, je crois que c'est lui qui en a imposé la légitimité. Les émotions collectives ont toujours éveillé l'intérêt des historiens. Mais elles ont aussi beaucoup suscité leur méfiance. Parler d'émotions collectives, est-ce que ce n'était pas quitter la terre ferme de l'histoire pour les sables mouvements de la psychologie des foules, style Gabriel Tarde ou Gustave Le Bon? Et quant aux émotions dites individuelles, elles ont depuis des siècles leurs spécialistes. On les appelle les romanciers. Mais bon, il en fallait beaucoup plus que cela pour décourager Alain Corbin, qui revendique volontiers cette double proximité, d'une part avec l'histoire des mentalités, d'autre part avec la littérature. Sans se soucier du quand dira-t-on, il a pris son bâton. Il est allé au-devant des êtres pour dire les travaux et les jours, comme dans sa thèse sur les paysans et ouvriers du Limousin, mais aussi pour comprendre et décrire leurs émotions. Je le cite, « Pendant 40 ans, dit-il, j'ai fait le tour de France des archives pour quêter émotion et sensibilité. » Il a voyagé la France. C'est une expression qu'on employait pour parler des compagnons du tour de France, et je trouve qu'elle lui va bien. Et lui, qui a des origines en partie antillaises, du côté paternel, il n'a jamais cédé aux sirènes de l'histoire mondiale ou mondialisée. C'est l'Hexagone, donc il parcourt inlassablement. On l'a dit, il est né en Normandie, mais il est rené, hein, born again historian, dans le Limousin, son premier terrain. Mais en Limousin même, à quoi est-ce qu'il s'attache avant tout? Quel est son punctum, aurait dit Barthes, quel est son point d'émotion? Ce sont les migrants. Ce sont les migrants saisonniers que la pauvreté au XIXe siècle jette chaque année sur les routes et qui vont s'entasser dans la capitale chez les marchands de sommeil pour bâtir le Paris haussmannien.
Les migrants et puis aussi beaucoup d'autres sujets qui ont intéressé.
Ah oui, parce que pour les sujets d'études aussi, quelle bougeotte. Un jour, Alain Corbin s'attache aux odeurs, le lendemain aux sonneries de cloche. Il en a à peine fini avec les prostituées qu'il passe aux baigneurs et aux baigneuses. Rien n'échappe à sa curiosité, ni la découverte voluptueuse de la mer, ni le vertige des gouffres, ni la fascination des cloaques, qu'ils soient réels ou métaphoriques, et pas davantage l'exhalaison des parfums, les troubles de la sexualité, les remugles des maisons closes, les mystères des chambres conjugales, les silences des confessions, bref, rien d'humain qui lui soit étranger, et surtout, rien d'humain qui, sous son regard, ne devienne historique. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il raconte comment il aimait prendre la route pour aller tel un chevalier errant réveiller les belles archives endormies. Je le cite une deuxième fois. « J'aimais partir avec ma voiture, arriver le soir dans un lieu inconnu, Épinal ou Bar-le-Duc. C'est un plaisir particulier. Promeneur solitaire, mais qui sait se faire des amis en chemin, les mangeurs de châtaignes du Limousin pauvre, les baigneuses des plages à la page. » Et pourquoi pas même les cannibales de Dordogne qui se donnent le mot en 1870 pour massacrer le hobereau du coin. Sans oublier bien sûr les arbres, les herbes, ni les filles de noces qui les redécouvrent un dimanche de communion, comme dans la maison Tellier. Ce récit de Maupassant, Max Ophuls en a fait un très beau film en 1952 intitulé « Le plaisir ». À l'unisson, Corbin, toujours un brin provocateur, revendique une histoire hédoniste. Il y a tant d'historiens de la misère, je serai un historien du plaisir. Et en vérité, il est l'un et l'autre. L'histoire, selon Corbin, n'ignore nullement les misérables, mais elle refuse le misérabilisme. Elle en sait long sur la cruauté comme sur les plaisirs. Tout simplement, on peut dire qu'elle en sait long sur l'homme. C'est ainsi que Barthes, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, définissait la littérature. Mais l'histoire aussi peut en savoir long sur l'homme, surtout quand c'est Alain Corbin qui l'écrit.
Merci beaucoup Philippe Roger. Il faut également signaler que jeudi prochain à 20h, le numéro de critique consacré à Corbin sera présenté en présence d'Alain Corbin lui-même à l'IMEC Abbaye d'Ardennes. Alors venez nombreux, les renseignements sur le site cerisi-colloque.fr ou sur celui de critique hébergé par les éditions de Minuit. À très bientôt. Victor Segalen est au sommaire de la Compagnie des auteurs jusqu'à jeudi. L'écrivain dont nous célébrons cette année le centenaire de la disparition et dont sa biographe, Marie Dollé, retrace aujourd'hui pour nous la vie. Nous nous étions arrêtés avant la chronique au moment du départ de Segalen pour la Chine. On écoute maintenant une archive à ce sujet de l'écrivain Édouard Glissant.
On a dit que il n'est pas juste de voir Segalen comme quelqu'un qui essaie tout simplement d'être un Chinois. C'est ça, c'est vrai. Il n'essaie pas d'être tout simplement un Chinois. C'est un Breton du début du siècle. Il n'est pas question pour lui de se transformer en un autre. Mais je crois qu'il a essayé d'établir un rapport fondamental entre ce qu'il est et ce que l'autre est. Et je crois surtout qu'il a essayé de vivre, contrairement à d'autres écrivains, avant lui Loti, sur le mode un peu exotique, et après lui Claudel Saint-John Perse, disons dans un registre plus spécialement poétique, Il a essayé de vivre cette aventure jusqu'au bout, de ne pas tricher, et il n'est pas osé de dire que pratiquement il en est mort. Il dit dans une de ses dernières notes qu'il sent la vie s'en aller de lui, qu'il ne sait pas pourquoi, et il n'est pas osé de dire que c'est cet effort terrible qu'il a entrepris d'être à la fois le même et l'autre, soi et autrui, qui a usé ses forces et qui l'a amené à sa fin.
Alors, la découverte de la Chine, Marie Dollet, pour Ségalène, c'est une expérience de l'altérité, très radicale, plus radicale sans doute encore que celle qu'il a connue en Polynésie, vous diriez ça aussi ?
Oui, je dirais ça, oui, tout à fait. Parce que il se trouve face à une civilisation millénaire et une civilisation où l'écrit, hein, contrairement à la Polynésie, évidemment, joue un rôle fondamental. Et Ségalène est le seul écrivain français, à ma connaissance, à avoir appris le chinois, mais réellement, avec tout l'effort que suppose l'apprentissage d'une langue aussi difficile.
Et non seulement il apprend la langue, mais il lit aussi les grands penseurs de la Chine. Donc il a une connaissance de Confucius, de Lao Tzu, qui est très précise quand il arrive en Chine.
Il les découvre aussi et il les quand il arrive en Chine, je ne sais pas trop, mais je crois que au fur et à mesure qu'il approfondit son apprentissage du chinois avec un lettré chinois, hein, il a deux professeurs en fait, et il découvre les textes classiques de la Chine et il se pénètre, hein, de cette pensée.
Donc vous diriez que c'est un sinologue à ce moment-là?
Oh, je ne sais pas si on peut employer ce terme qui est très précis, mais parce qu'il va pas en revanche être archéologue. Là, c'est encore on peut peut-être davantage dire qu'il est archéologue que sinologue.
On va y revenir sur cette partie de sa vie. Il faut dire qu'il part donc en Chine, alors seul, hein, il laisse dans un premier temps sa femme et puis sa famille en France. Il part en revanche avec Augusto Gilbert de Voisin. Il faut dire un petit peu qui est ce personnage qui va être très important aussi dans la vie de Ségalène.
Alors ça va être pour Ségalène un ami très important, très très constant. À l'époque, c'est un personnage connu du monde des lettres, alors que on ne sait plus, personne ne sait qui il est. Beaucoup plus connu que Ségalène ne le sera jamais de son vivant. Et Auguste Gilbert de Voisin est très riche, il a une fortune personnelle et il est très généreux. Et comme lui-même a des problèmes psychologiques importants, il propose à Victor Ségalène de financer cette expédition extraordinaire qui va les mener tous les deux 10 mois à travers la Chine profonde.
Et donc tous les deux écrivent, mais c'est comme s'ils ne faisaient pas le même voyage. En tous les cas, ils ne parlent pas de la même chose. Et ça permet de comprendre aussi la personnalité un peu de l'un et l'autre.
Oui, parce que quand on compare ce qu'écrit Victor Ségalène, dans sa correspondance notamment, et dans ses livres, et quand on lit par exemple « Écrit en Chine » de Gilbert de Voisin, qui est très intéressant, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas été sur les mêmes lieux, ils n'ont pas vu les mêmes choses.
Alors ça nous dit des choses sur Ségalène, parce que au fond, ce que Ségalène ne voit pas, c'est le peuple chinois. Il ne voit que l'architecture, le patrimoine, la langue, il l'entend, il voit aussi les idéogrammes, mais il ne voit pas tellement les Chinois.
Ben, il refuse systématiquement tout ce qui, pour lui, relève de l'anecdote, la loti, ça, il a... Vous savez que tout son esthétique, c'est un anti-Loti. Donc, ne pas faire ce que Loti a fait.
C'est qu'il déteste l'orientalisme?
Oui, puis il déteste le pittoresque, le goût justement du détail. Donc, lui, il efface. Et alors que quand on lit Gilbert de Voisin, on découvre qu'ils ont assisté à des spectacles terribles, comme le supplice des 100 morceaux qui a tellement abasourdi Bataille.
Oui, qui est une affreuse torture.
Mais oui, qui est une affreuse torture et dont Gilbert de Voisin parle longuement. Et dont Ségalène ne dira jamais un mot.
Autre rencontre, alors c'est pas une rencontre, hein, Gilbert Devoisin, puisqu'ils partent ensemble, mais sur place, Ségalène rencontre un certain Maurice Roy. Alors, c'est le fils du receveur de la Poste française de Pékin, il a 19 ans. Il est complètement bilingue et puis il raconte des choses assez extravagantes sur la cité interdite, où paraît-il il a ses entrées, et ça va devenir le personnage de René Leys.
Oui, transposé, hein, quelques années plus tard. Hein, c'est une fois que Ségalène n'écrit pas tout de suite, hein. René Leys, il attend un peu que cette relation avec Maurice Roy, qu'il ait pris un peu
retombe
de distance,
un peu de distance,
pour la transposer dans René Leys. Et effectivement, ce qui le fascine dans Maurice Roy, c'est sa capacité. Il dit que c'est un perroquet, qu'il retient tout de suite ce qu'il entend. Et pour Ségalène, et ça se retrouve dans René Leys, et c'est quelque chose de particulier et de vraiment important. L'accès à la Chine ne peut se faire que par la langue. Mmh. Et en fait, l'accès à la cité interdite n'est possible que si on parle la langue qui est celle de la cité interdite.
Alors à cette époque-là, en Chine, il y a évidemment Paul Claudel. Ils se rencontrent, mais la rencontre n'est peut-être pas forcément une réussite à en croire. Bah, écoutez.
Dès mon arrivée à Tianjin, je me rends au consulat. Et voici Claudel, froid et aimable d'abord, plus aimable que froid, tête ronde, yeux porcelaine très vif, menton et bouche empâtés, comme son parler un peu. Il a reçu mon livre et ma lettre, les a lus. Il me retient longuement. On parle du milieu littéraire parisien. Puis, se levant, il m'emmène en voiture pour me montrer Tianjin. D'abord, l'église neuve, couronnée des épitaphes des massacrés de 1870, les sœurs, des missionnaires et des négociants qui les défendaient. Lui, Claudel, méprise un peu le caractère chinois. Il croit à la disparition rapide de l'ancienne Chine, et qu'il faut la voir vite et bien. Claudel me parle ensuite, fort à la légère, de l'hindouisme, qu'il ne semble ne connaître qu'à travers Michelet. Mais comme moi, il est d'emblée en Chine, allé vers le Tao Te King, l'abyssale pensée de Lao Tzu. Et là encore, il ne la pense qu'à travers une vague traduction, car, voici le piquant, si la loi et moi avions reconnu clair comme le jour l'influence du style chinois écrit sur sa prose, Claudel m'apprend qu'il ne sait pas un mot de chinois.
Donc avec Claudel, c'est plutôt une série de rendez-vous manqués, Marie Dolez.
Il admire énormément le poète. Il est totalement, vraiment enthousiasmé par Claudel. Mais il fait bien la distinction avec le personnage. On le sent bien, hein, dans cet extrait qui lui paraît... finalement, assez décevant, c'est vrai. Mmh. Et Claudel va vraiment faire tout ce qu'il peut pour convertir Ségalène. Hein. Je crois que Claudel essayait de convertir absolument tout le monde. Et il va vraiment vouloir obtenir de Victor Ségalène qu'il s'agenouille. Et Victor Ségalène ne le fera jamais.
Non, ça c'est pas possible. Alors il est médecin quand même sur place, il est professeur, il est évidemment écrivain, et il est aussi archéologue. Vous l'appelez le poète archéologue. Comment ça se passe alors, cette transition vers l'archéologie ?
C'est étonnant. D'abord chez lui, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire autant de choses en si peu de temps. Ce qui explique effectivement, hein, il le dit lui-même, l'état d'épuisement dans lequel il est au bout de quelques années.
Il faut dire que sa famille aussi est revenue pour l'accompagner,
oui,
cette fois en Chine.
Oui, sa famille s'est installée, hein, quand même en Chine. Et il a suivi les cours de Édouard Chavannes. Il a lu tout ce qui s'était publié dans ce domaine sur l'archéologie. Et en 1914, alors que en quelques années, il a atteint un niveau de compétence tel qu'il obtient une mission officielle. Une mission du ministère des Affaires étrangères et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour faire une expédition archéologique en Chine.
Et donc, il va faire un certain nombre de découvertes importantes.
Oui. Alors, il y en a une qui me fascine complètement. C'est celle du site du tombeau du premier empereur. Vous savez, là où il y a l'armée des guerriers de terre qu'on a découverte en 1970. Quand je dis à mes amis chinois que c'est Victor Ségalen qui est le premier à repérer le site, ils ne me croient pas. Or, si, c'est, je crois, indiscutable. On savait que ce tombeau dans les annales était dans les environs de Xi'an. On le pensait beaucoup plus près de la ville. Et Ségalen qui a lu les annales et qui a surtout, et il le dit lui-même, ce qui est fascinant, c'est que c'est resté dans la mémoire à travers ces deux siècles avant Jésus-Christ, le premier empereur, c'est resté dans la mémoire populaire. Il entend un vieillard lui désigner un tumulus. Et il dit « Je reconnais sans hésitation la montagne factice ». Et il sait que c'est le tombeau du premier empereur. Et c'est effectivement près de ce tombeau qu'on va trouver cette extraordinaire armée des guerriers de terre.
Alors c'est aussi un peu un pilleur, parce qu'il n'hésite pas, quand il veut ramener une statue, à demander à ce qu'on scie...
La tête du Bouddha, oui.
Une tête de Bouddha,
oui,
voilà.
Ce n'est pas un épisode à son honneur, oui, c'est vrai.
Il n'y a pas du tout cette conscience chez Ségalen du respect quand même de la tradition que pourtant il admire, par ailleurs.
Oui, alors est-ce qu'il a... Oui, je ne sais pas comment on peut expliquer ce geste qui effectivement n'est pas du tout... comme je le disais, à son honneur. Bon, peut-être... Écoutez, je ne sais pas, vraiment.
Vous ne savez pas, parce que ce n'est peut-être pas très justifiable, à part le fait que, en effet, c'était une autre époque. Alors, il écrit ce livre qui s'appelle « La grande statuaire chinoise », qui est plus qu'un livre d'érudit, c'est vraiment un livre de passionné, peut-être même un livre à destination des artistes et même un livre d'écrivain.
Oui, alors c'est un livre qui est resté longtemps à l'état de manuscrit. Un livre, vous savez que la plupart des livres de Ségalen sont inachevés. Il n'a publié que 3 livres de son vivant. Et La Grande Statuaire est un immense chantier. Et c'est Philippe Postel qui en a donné une version vraiment critique, commentée aux éditions Champion. Et c'est un livre effectivement qui met en scène la statuaire chinoise l'architecture chinoise qui frappait beaucoup Ségalen, parce que c'est une architecture, disait-il, en mouvement. Et c'est vrai que quand on visite les monuments chinois, par exemple le Temple du Ciel à Pékin, pour lequel il avait une très très grande admiration, si on rentre bien par la porte sud, parce qu'actuellement on rentre par la porte est, ça c'est... un signe d'amnésie un peu désolant. Mais le monument se dévoile peu à peu au fur et à mesure qu'on avance.
Alors dans ce texte, il radicalise l'idée d'un art qu'il appelle originel. En gros, pour Ségalen, plus c'est ancien et plus c'est beau.
Les Han. Oui, voilà, ça c'est quelque chose qui est constant aussi chez lui, c'est de privilégier ce qui est à l'origine.
Et pourquoi ?
Parce
lui
qu'il
aussi,
estime,
il est comme Huysmans, il va à rebours.
Oui, parce qu'il estime qu'ensuite, les formes se dégradent et qu'il y a comme une espèce de...
Abattardissement.
de l'art des sculptures. Et il est très très sévère avec les sculptures bouddhiques, notamment.
En 1915, il lui faut rentrer. Alors là, c'est évidemment une grande tristesse pour lui parce que il commençait à faire des découvertes très importantes, archéologiquement parlant, et puis finalement, ça doit s'arrêter parce que la guerre s'est déclenchée. Lui-même est militaire, donc il doit partir.
Oui, il rentre en août 1914, et je crois que c'est quelque chose de terrible parce que dans ses lettres, il explique que l'année 1914 doit être l'année de l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il a trouvé l'alternance qui lui convient parfaitement, 9 mois à Pékin, 3 mois à Paris, 1 mois dans le Transsibérien. Il est persuadé qu'il va avoir une chaire d'archéologie ou qu'il va diriger un institut sidologique à Pékin. Et tout se brise avec la guerre de 14-18. Tout s'effondre.
À la fin de la guerre, on trouve un Ségalène fatigué, malade, littéralement épuisé. C'est celui dont on a parlé au début de l'émission. Est-ce que vous avez l'impression que physiquement, il était à bout, Marie Dolé ?
Il n'y a pas que moi qui ai cette impression-là. Et certains de ses amis qui l'ont rencontré disent qu'on ne reconnaît pas tellement il est devenu maigre. Il a toujours été très mince. Il ne dort plus, il se bourre de calmants, il est hospitalisé pour neurasthénie aiguë.
Et c'est ainsi que donc, comme nous l'avons dit en début d'émission, le 24 mai 1919, il est enterré à Huelguat, dans le cimetière local près de la forêt, où il est donc mort. Merci beaucoup Marie Dolé. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de littérature française du XXe siècle à l'université de Picardie Jules Verne et autrice de la biographie Victor Ségalène, Le Voyageur Incertain, paru chez Aden en 2008. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Pascal Baudin. Demain, suite de notre série Victor Ségalène, nous serons en compagnie de Christian Doumé pour le parcours de l'œuvre. Mais pour l'heure, c'est le moment de la poésie, choisie et interprétée, comme chaque jour, par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Fin du trimestre et sonnerie de départ bientôt. Il nous reste un paquet comme ça d'auteurs à visiter. Derniers arrivages et des regrets, comment ici parler en 10 secondes de chacun. Tiens, je viens de recevoir Ode au paillasson, si c'est pas merveilleux, d'Eugène Savitskaya, qui est paru au cadran ligné. Mais cette semaine, nous la passerons avec Jean-Louis Giovannoni, L'air cicatrice vite, il faut le croire, et Sophie Loiseau, un nom à se faire bouffer toute crue qu'elle défend d'un Z qui veut dire l'oiseau, pas n'importe laquelle. Elle a écrit Les loups, eh, voyez donc. Elle est en pays de compte entre l'obscurité du fin fond des parcs et d'étranges résidences ou châteaux. Elle se promène, oui, l'oiseau, dans les bois et nous dit Les loups. C'est chez José Corti. Est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle. Un faisan n'est déjà plus un loup si élevé puis relâché et tiré dans la foulée. Les cygnes sont des loups, ils n'ont presque rien à craindre au centre du bassin ou ailleurs. Sur l'herbe, c'est pour ça qu'ils sont calmes et qu'on a rarement vu ça. Les derniers peuples nomades sont des loups. Moi, non. Née blanche et française, ma vie, douce, pas du tout, âpre et la meilleure des vies. Voilà tout, Sophie Loiseau, réversible et comme dans un miroir. Dans quel sens faut-il la lire ? Ma vie, douce, pas du tout, âpre et la meilleure des vies, ou ma vie, douce, pas du tout, âpre et la meilleure des vies. La poésie se découpe, on le sait, va à la ligne et suivant le jeu que l'on fait avec le regard, on choisit sa version. Âpre est la meilleure des vies pour une femme. Cette vérité du sauvage, je me risque à la vivre dans des bosquets. Et l'insécurité que je sens n'est pas le fait des bêtes. Elle regrette son écart avec le monde animal. Écoutez ça, on compose un poème en choisissant ses petits bouts. Il secoue les lambeaux, ses velours sanglants. Le loup, il fait comme font les loups. Il écorce les arbres et dépose ses sécrétions. Il se déclenche mâle et femelle, confondu, un rut lyrique propre à la célébration et à l'extase. Que le loup soit le plus grand, cervidé de la forêt ou la neige en soi, cela est indifférent. Là aussi, jeu d'aller et retour. Que le loup soit le plus grand, cervidé de la forêt ou la neige en soi, cela est indifférent. Bosquet, un des bosquets de Sophie Loiseau. Discrète et moi-même herbivore, je piétine en longeant les grandes fèves déjà piétinées, donc sur les pas de quelqu'un, je trouve ça inquiétant. Le passage s'ouvre à mesure, mon entrée en leur royaume les choque. Est-ce qu'elle parle des loups ? Assieds-toi, je m'exécute.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures autour du recueil Les Loups de Sophie Loiseau et des textes du poète Jean-Louis Giovannoni.